Tu ne m'as pas dit que les guitares de l'exil sonnaient parfois comme un clairon. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrerai l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Je ne t'ai pas dit que les guitares de Paris pouvaient apprendre ta chanson. Toi, mon ami l'Espagnol, de la rue de Madrid, rencontrerai l'autre hiver une fleur sur les lèvres. Et puis tu es parti dans les rues de Paris. Et tu ne m'as rien dit.
Farewell, Angelina, the bells of the crown are being stolen by bandits. I must follow the sound. The triangle tingles and the trumpets play slow. But farewell, Angelina, the sky is on fire and I must go. There's no need for anger, there's no need for blame. There's nothing to prove, everything's still the same. Just a table standing empty by the edge of the sea means farewell, Angelina. The sky is trembling and I must leave. The Jack and the Queen have forsaken the courtyard. 52 gypsies now file past the guards. In the space where the deuce and the ace once ran wild, farewell, Angelina, the sky is falling. I'll see you in a while. See the cross-eyed pirate sit perched in the sun, shooting tin cans with a sawed-off shotgun. And the neighbors, they clap and they cheer with each blast. But farewell, Angelina, the sky's changing color and I must leave fast. Valentino-type tangos while the makeup man's hands shut the eyes of the dead, not to embarrass anyone. But farewell, Angelina. The sky is embarrassed, and I must be gone. The machine guns are roaring, and the puppets heave rocks, and fiends nail time bombs to the hands of the clocks. Call me any name you like, I will never deny it, but farewell, Angelina. The sky is erupting, I must go where it's quiet.
Quand autrefois dans les salons, la jeune fille de la maison venait chanter en rougissant, les invités serraient les dents, regrettant que rien ne prohibe la loluliléo de lib à ses gosiers entreprenants. Et d'une inconscience admirable, enchaîne les notes malheureuses et vocalise défectueux. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et la peur. On a connu des parisiennes qui chantaient résolument faux. Pourtant, quand elles étaient sur scène, le monde entier braillait bravo. Une milliardaire américaine voulut piauler de l'opéra, ce qui nous valut quelques migraines. Puis un disque chez RCA. Comme quoi le gène de la justesse n'est pas celui de l'ambition. De chanter faux, je le confesse, j'ai la secrète tentation. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'envie. Vous qui chantez comme des guimbardes, comme Assurance Tour X le barde, qu'avez une voix comme un outrage, une voix de mule, une voix de garage. Chantez et prenez bien vos aises, avec les dons, les la, les dièses, affranchis de toute harmonie. Pire et même plus beau que ce qu'on entend à la radio parfois. Rendons hommage aux casseroles qui chantent à tout hasard, jamais vraiment un bécard, jamais vraiment un bémol. Aux casseroles, aux fossés, ouvrez la chasse aux canards et rassassinez Mozart dans l'environ et le bizarre, dans la joie et la peuprès. Aux casseroles, aux fossés.
Je l'ai jamais bien su, mais si je... jamais je le savais. Je crois bien que je n'irai plus.
Aujourd'hui je t'aime, oui mais demain on ne peut jamais être sûr de rien. On va toujours seul sur la route, je continue coûte que coûte. Et puis une route en croise une autre, et puis une autre et encore une autre. Pourvu que la tienne, oh mon amour, croise la mienne tous les jours.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Et je suis une cigale, t'inquiète fourmi, je crève pas la dalle. La musique c'est un bon gagne-pain, où que je sois, je manque de rien. Je chante toujours de quoi grailler, de quoi trinquer, de quoi causer. Je m'endors où il fait sommeil, et je passe l'été au soleil.
Je ne sais pas où je vais, oh ça je l'ai jamais bien su. Mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Un jour ici, l'autre là-bas, la SNCF ne m'aura pas. Et toi qui n'as qu'une seule adresse, oh pauvre, si tu veux, je t'en laisse. Mais échange de mon procédé, si tu veux bien m'héberger, ben je serai le bienvenu,
ben nous serons les bienvenus. Je ne l'ai jamais bien su, mais si jamais je le savais, je crois bien que je n'irai plus.
Je ne sais pas où je vais,
je ne sais pas où je vais,
je ne sais pas
si le savais.
Mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su, mais ça je l'ai jamais bien su.
Anglais, les Français de Navarre, vous avez tous vu un comme ça sur quai d'une gare en train de se lamenter sur son sort, offrir des fleurs à sa douce et bien tendre qu'il oubliera un moment plus tard. Petit monsieur Anglais, alors vous en parle, il s'ennuie, on l'oublie, il a juste une seule chose à faire.
Endormi et la fleuriste qui passe, sifflant ma mère depuis 20 ans, les amoureux de passage et les touristes en vacances. Les amoureux se lassent, les autres sont pleins d'ennui. Lui mate les gens qui passent en pensant à sa vie. Il repense au temps où, comme tous ces fous, il croyait ne pas rester de glace, il partira jamais. Il s'y revoit encore sur le même qu'à crier Miramar, sa belle Andalouse, qui en faisait bien des jalouses. Le petit monsieur en gris, sur le quai l'après-midi, suit son regard de top, la vie des autres endormis.
À force de trop leur regarder passer sans jamais pouvoir l'attraper par le col. Il murmurait une mauvaise complainte que maman nous chantait encore pas trop longtemps. Qu'on était encore tous là-bas, serrés au fin fond du camping, dans la caravane. Warm set away, oh. Warm set away.
Hate Russian. Allez, Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Bonjour et bienvenue dans l'émission Médias et Antifascisme. Émission présente tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Si vous ne nous connaissez pas encore, donc nous sommes une émission qui cherche à dénoncer la droitisation, l'extrême droitisation des médias, la diffusion d'idées réactionnaires sur les chaînes de télévision, stations de radio, sites internet, journaux papier. Vous pouvez nous écrire à l'adresse mail médias-et-antifascisme@protonmail.com via nos comptes Facebook et Blue Sky Médias et Antifascisme-6 Radio Libertaire 89.4 FM en IDF, sur Instagram via média-8 et-8 antifascisme-8 RL, sur Mastodon via le serveur todon.eu, c'est à l'arrobase média au pluriel -8 et -8 antifascisme-8 RL -8 IDF, ou par courrier à l'adresse de la librairie du Monde Libertaire Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Pour soutenir financièrement la station de radio, vous avez rendez-vous sur radio-libertaire.org. Dans la rubrique « Nous soutenir », vous pouvez y télécharger le bon de souscription et le retourner complété au 145 rue Amelot, 75 011 Paris, ou envoyer un chèque à l'ordre de DMC. Donc, programme du jour, c'est la diffusion d'une émission réalisée avec notre amie Mariama de l'émission Pas de quartier, que vous retrouvez un mardi sur deux, c'est à 18h, et La rage dedans, que vous retrouvez un vendredi sur deux à 16h30. Voilà, donc aujourd'hui, on passe une émission que nous avons réalisée avec elle. Nous avions invité l'historien Pierre Salmon, qui a sorti un livre avec François Godichaud et Mercedes Sioustat, « La guerre d'Espagne 1936-1939 ». Et c'est aux éditions Talendier, c'est sorti au mois de mars dernier. C'est un livre qui a été vertement critiqué par le Figaro, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Mais c'est un livre qui, on peut dire les choses comme ça, remet en quelque sorte les pendules à l'heure par rapport à l'histoire de la guerre d'Espagne, par rapport à l'avènement du franquisme, par rapport à la défense de la République, c'est un gros mot, mais enfin, en tout cas par rapport à l'opposition qu'il y a eu entre franquistes d'un côté et républicains et libertaires de l'autre, quoique la coalition républicaine-libertaire fut plus ou moins hétéroclite. Dans tous les cas, aujourd'hui, nous passons cet enregistrement réalisé donc avec l'historien Pierre Salmon. Et à l'issue du passage de cet enregistrement, on fera une petite analyse, un petit commentaire de ce qu'on vient d'entendre, et on essaiera de creuser un petit peu le sujet pour essayer d'aller plus loin. 11h52 sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Sans plus attendre, on part immédiatement avec Pierre Salmon, avec Mariama de l'émission Pas de quartier et La rage dedans. Et nous-mêmes, donc l'équipe de Médias et Antifascisme, tous les deuxièmes vendredis du mois à 11h30 sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. C'est parti pour donc l'émission avec l'historien Pierre Salmon. Et ça ne part pas. Alors, on va essayer de... Ça ne part pas, mais ça va partir, je vous le garantis. Ouais, il y a un petit problème. On va régler ça. Enfin, on va essayer. Là, ça devrait partir. 11h53 sur Radio Libertaire. Mmh. Donc effectivement, alors aujourd'hui, hein, une émission commune entre Médias et Antifascisme et l'émission Pas de quartier sur Radio Libertaire 89.4 FM en Ile-de-France. Et on reçoit aujourd'hui du coup Pierre Salmon. Bonjour Pierre. Bonjour. Pierre Salmon, du coup, vous êtes l'auteur d'un livre qui est sorti, je crois, au mois de mars dernier, le 12 mars, si j'en crois le site des éditions Talandier qui ont édité votre livre avec François Godichaud et Mercedes Yusta. La guerre d'Espagne, 1936-1939, la démocratie assassinée. Si on parle de ce livre ce mois-ci, c'est aussi parce que Le Monde Libertaire, hein, en ce mois de septembre 2026, a consacré, comme vous avez pu le voir, un dossier sur l'Espagne en 1936. Et il faut savoir donc que notre émission a écrit un article, c'est en page 18 de ce numéro, qui s'appelle « Résurgence du franquisme et contradiction des livres aux relations avec Israël », parce que pour le coup, nous, on est parti du principe qu'il y avait quelque chose à dire de ce côté-là. Et pour ça, d'ailleurs, on est remonté au voyage de Jordan Bardella, Marion Maréchal et Herman Terch du parti Vox, parti espagnol Vox, qu'on peut situer dans la lignée, en tout cas l'extrême droite espagnole, quoi, dans la lignée du franquisme. Donc ces trois personnages se sont rendus en mars 2025 en Israël pour, soi-disant, lutter contre l'antisémitisme. Et au-delà de ça, on était quand même parti du principe qu'il y avait une résurgence d'une certaine nostalgie du franquisme. Et donc, notamment, par rapport à la messe que le cercle franco-hispanique avait voulu organiser, c'était le 29 novembre 2025, c'était à Paris. Avant de commencer, Mariama, tu es avec nous aujourd'hui, du coup, bonjour Mariama.
Bonjour.
Excuse-moi de ne pas t'avoir présenté tout au début de mon intervention.
Il n'y a pas de problème.
Sachant que, pour le coup,
Pas de quartier, c'est ouais. Un mardi sur deux de 18h à 19h30.
C'est parfait. Et surtout, avant de commencer, ce qui est important à dire, c'est qu'on a déjà fait des émissions en commun. On en a fait deux.
Oui. On avait invité Laurent Mauduit. Exactement. Pour collaboration. Son livre sur l'extrême droite et le patronat.
Oui, absolument. Et la deuxième émission qu'on avait faite ensemble, on avait reçu Denis Robert, le directeur du Média Blast, pour parler notamment du numéro que Blast avait sorti avec les Inrecuptibles, l'Humanité, Radio Nova et Street Press. C'était le numéro, j'ai oublié le nom, comment ça s'appelait, mais c'était un numéro commun avec les cinq rédactions par rapport à l'extrême droite. En tout cas, c'était une affirmation d'un combat commun. Et on l'avait donc invité pour ça. Du coup, ravi de vous recevoir Pierre et content une nouvelle fois de faire une émission avec toi Mariama, avec le groupe Louise Michel de la Fédération Anarchiste. Pour commencer, moi je voulais un petit peu, je sais pas si tu veux commencer par réagir à ce que j'ai dit, alors dans ce cas-là je vais te laisser et après si vous le voulez bien Pierre et Mariama, je rebondirai sur effectivement le fait que le cercle franco-hispanique ait voulu organiser une messe l'année dernière en 2025 à Paris et je rebondirai également si vous êtes d'accord sur les livres qui sortent depuis quelques années notamment aux éditions L'Artilleur ou même aux éditions du Alpha et qui font montre d'une certaine nostalgie pour le franquisme, le tout en plus de ça relayé par des médias comme le Figaro. Mariama,
alors,
je t'en prie.
Avant de parler des autres livres, on va peut-être parler du livre pour lequel on invite Pierre.
Oui.
La guerre d'Espagne 1936-1939, la démocratie assassinée. Sur le bandeau, il y a une phrase qui est un fil conducteur du livre, la première guerre globale contre le fascisme. Chez Talandier, 25,50 €, donc avec deux autres co-auteurs, et François Godichaud et Mercedes Yusta, 472 pages, 16 chapitres. Et je voudrais lire la phrase en introduction. Est-ce un crime pour un peuple de défendre sa liberté? Point d'interrogation. José María Aguirre à propos du bombardement de Guernica en 1937. Alors, tu parles du voyage de gens d'extrême droite en Israël avec dans la ligne de mire la lutte contre l'antisémitisme. Mmh. Bien, mais ils se positionnent pas sur le fascisme et l'antifascisme, ils auraient du mal.
Ils auraient beaucoup de mal.
Voilà. Alors, on va donner la parole à Pierre, qui va nous expliquer pourquoi il est essentiel de parler de la démocratie assassinée et pourquoi c'est la première guerre globale contre le fascisme.
Alors, bonjour, merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, c'est une question très ouverte. Très ouverte sur pourquoi parler de cette guerre globale contre le fascisme et pourquoi ce bandeau. C'est vrai que ça a été une réflexion qui a été menée avec mes deux auteurs, co-auteurs et amis, Mercedes Yusta et François Godichaud, et la maison d'édition, notamment Judith Simoni et Léopoldine Desguéraux, sur ce choix de bandeau. Et rapidement s'est imposée cette idée, entre autres idées. Pourquoi ? Parce qu'on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se passait dans ce conflit qui était à la fois, comme vous pouvez le dire aussi François par ailleurs, une guerre mondiale dans un seul pays. Et s'il y a une guerre mondiale dans un seul pays, c'est parce qu'il y a une mobilisation transnationale, globale, de militants, de poètes, d'intellectuels, et puis même de citoyens qui avaient pas forcément, qui n'étaient pas forcément passés par des engagements militants avant. On en parle dans l'ouvrage, et Célia Keren en parle pas mal dans ses travaux sur l'accueil des enfants réfugiés. On peut retrouver des catholiques français qui vont accueillir des enfants républicains. Alors, pour des raisons complètement différentes d'autres mobilisations. Mmh. Mais en fait, c'est une mobilisation très éclectique. Et ça, ce qui les réunit, c'est la lutte contre le fascisme, pour des raisons souvent bien différentes, ce qui ne va pas aller sans tension, hein. Mmh. Évidemment. Mais certains vont dénoncer ces crimes du fascisme. Le moment de Guernica, c'est un moment d'inflexion très important. Mais dès le début, et même avant la guerre d'Espagne, certains sont très attentifs sur ce qui se passe sur ce sol espagnol. Et on pourrait y revenir, c'est parce que cette cause espagnole, et c'est quelque chose qu'on dit au début de l'ouvrage, sur lequel on insiste, elle n'est pas inconnue. Il y a cette idée à l'époque que l'Espagne est un peu à l'écart de la civilisation, que l'Europe s'arrête aux Pyrénées. Mais en fait, les circulations militantes, elles sont importantes, en particulier chez les libertaires. Mmh. On pense aux mobilisations pour Durruti, Ascaso et d'autres. Ce sont des personnes qui circulent et puis des personnes qui, grâce à leur soutien en France, en Belgique, aussi en Argentine, sont capables de lever des pétitions avec des centaines de milliers de signatures, ce qui est énorme à l'époque. Et des signatures qui dépassent bien qui vont bien au-delà de leur cercle politique. On voit même avant eux, hein, au début du XXe siècle, j'aime bien prendre cet exemple, Ferrer, qui est un pédagogue anarchiste, et en 1909, hein, qui est exécuté dans le contexte de la révolte à Barcelone. Et Ferrer, on demande sa libération, et ensuite on dénonce surtout son exécution, surtout ça. Il y a Dreyfus.
Oui.
Dreyfus, victime de la raison d'État, de l'antisémitisme, évidemment. Mais Dreyfus, ce n'est pas l'antifascisme. L'antifascisme n'existe pas, le fascisme non plus. Et puis, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le cercle spectre politique du tout de la gauche. Ça montre qu'on est capable de toucher bien au-delà de ces sphères politiques. Et ça montre que l'Espagne n'est pas du tout un pays refermé sur lui-même. Et ça, c'est un point important pour comprendre pourquoi, ensuite, avec le conflit espagnol, c'est devenu une cause globale très rapidement.
Alors, vous ouvrez le livre, tous les trois, par le défilé de la victoire du 19 mai 1939. Défilé de la victoire, entre guillemets. Défile ce jour-là la Légion Condor, les troupes italiennes, les soldats marocains, les dignitaires absents mais décorés, Himmler, pour le chef de la Gestapo, Bocchini, pour la police italienne, Salazar, et en observateur, pas n'importe qui, le maréchal Pétain, nouvel ambassadeur de France en Espagne. Tout est dit.
Mmh. Tout est dit, tu t'as mis des guillemets à victoire.
Ah.
Alors en même temps, effectivement, on peut discuter. Alors ça pourrait être une vraie discussion sur la profondeur et sur les moyens de cette victoire. Mais
tout à fait.
C'est une victoire, en tout cas, ce qui s'impose à partir de ce moment-là, et même depuis plusieurs années pour les territoires qui ont été conquis et qui sont sous le contrôle de ceux qu'on appellera très rapidement des franquistes. C'est un régime de la victoire, d'une victoire triomphante, écrasante, et qui est censée annihiler l'ennemi. Et c'est ce qu'on voit de façon glorieuse, on pourrait dire, la manière dont on s'affiche. Hein. On explique une victoire qui ne fait pas d'égard pour ses ennemis, qui les invisibilise. Mmh. Et ceux qu'on met en avant, c'est évidemment ceux qui ont ensuite, par exemple, former l'Axe, hein, qui, sur ce terrain espagnol, vraiment former l'Axe, l'Italie, l'Allemagne, soutien de Franco,
36.
Depuis 1936, dès le début du conflit, dans les premiers jours du conflit, et conformer justement, oui, au mois de novembre, cet Axe. Et puis, on voit ces personnes qui sont décorées, en fait, qui reçoivent des grandes décorations, et puis Franco qui est sur place. Elle est intéressante, cette présence. C'est pas tout à fait inconnu, hein, certains le savent, mais elle est très significative. C'est pas un cadeau qu'on offre à un vieux maréchal insignifiant. En fait, et ça, Laurent Joly le montre très bien dans son ouvrage aussi publié chez Talandier sur la dictature, Vichy, histoire d'une dictature. Il y a depuis le milieu des années 30 et surtout après février 1934, avec ce qu'on interprète comme une tentative de coup d'État fasciste, c'est pas tout à fait le cas en fait, mais en tout cas c'est interprété comme ça. On voit qu'il y a une crise institutionnelle profonde et là il y a une campagne médiatique. À droite, à l'extrême droite, on dit il nous faudra un chef d'État, quelqu'un de fort qui peut résoudre tous les problèmes qu'on rencontre avec le parlementarisme. Et il y a plusieurs noms qui sortent, et le nom de Pétain est beaucoup mis en avant. Mmh. Et Pétain, c'est quelqu'un qui, dès le début du conflit espagnol, communique avec ses collègues insurgés, militaires, qui sont contre la République, et qui leur dit « l'armée ne bougera pas ». Vous inquiétez pas. En fait, il n'est pas tout à fait capable de tenir l'armée, parce que d'ailleurs, certains obéiront quand il faudra ouvrir la frontière et organiser des passages d'armes pour la République. Mais l'intention et la promesse, en tout cas, n'est pas insignifiante dans la bouche de Pétain.
C'est comme le fait d'annoter le fichier des Juifs.
Oui, tout à fait. C'est un autre sujet, mais tout à fait. On voit l'interventionnisme
de Pétain.
Voilà, moi je suis loin d'être un spécialiste de Pétain, mais ce qui est clair, ce que disent les spécialistes, c'est qu'on a eu l'image de quelqu'un qui a voulu protéger les Français, de quelqu'un aussi d'un peu gâteux, hein, pour le dire comme ça, très crûment. Évidemment, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'il a un âge assez avancé, mais il y a quand même quelqu'un qui a un sens politique et un objectif politique, assez clair.
Tout à fait. Et un sens de l'à-propos. Bon, alors, ce qui est-tu le 1er mai 39, et ça vous le dites bien dans le livre, c'est les massacres. Parce que quand, à la radio, on annonce la victoire, on dit que la guerre n'est pas terminée. La fuite, l'exil, les camps de réfugiés en France, les derniers combats, 120 000 personnes exécutées par les franquistes entre juillet 36 et 39. D'autres suivront, car la guerre n'est pas finie.
Effectivement, 39, c'est un point très important, hein, avril 39, avec la victoire militaire d'une guerre qui n'est pas terminée. On a pu parfois avoir l'image de Franco, une image bien fausse, hein, disons-le d'emblée, de Franco qui a amené la paix, qui a stabilisé le pays, et certains diraient même qui a permis la démocratisation du pays.
Il n'en est rien.
Donc il n'en est rien, on marche un peu sur la tête avec ce genre d'assertion. Mais en tout cas, ça ne vient pas de nulle part. Le régime a développé cette idée, notamment à partir des années 60. Puis il y a toute une historiographie officielle du régime qui insiste sur cette idée. Mais en parallèle, avant, pendant la guerre, et puis les années qui suivent la guerre, il y a un discours beaucoup plus violent et beaucoup plus clair sur ces objectifs. Au tout début, dans une des premières interventions, c'est auprès de Jay Allen, si je ne me trompe pas, au tout début du conflit, dans une interview, il dit « Franco, s'il faut fusiller la moitié du pays, je le ferai ».
Oui.
Donc on ne s'en cache pas à tel point que pendant la guerre, même les Italiens et les Allemands inviteront Franco à la modération.
Alors pour que les Italiens et les Allemands invitent Franco à la modération, ça vous donne une idée du personnage qui a fait ses armes dans l'armée coloniale, mais ça, Karim va nous l'expliquer plus abondamment, la guerre coloniale au Maroc.
On pourra y revenir, effectivement.
Avec des cris comme « Vive la mort, vive la muerte ».
Tout à fait, et puis une violence asymétrique coloniale qui explique beaucoup celle, on pourra y revenir, qui va être ensuite appliquée sur le sol espagnol. Mais pour revenir à la répression, donc on a 120 000 personnes pendant le conflit, environ, hein, on n'aura jamais en fait une estimation exacte du fait du contexte de ces mises à mort, et une bonne partie se fait en dehors de tout cadre, même pseudo-légal, et environ 33 000 après le conflit. Mais à ça, il faut ajouter d'autres formes de violence. Hein. C'est important de compter les morts, mais compter les morts, ça ne fait pas tout. Il y a 1 million de personnes en Espagne qui passent dans des camps de concentration, dans des prisons dans des camps de travail forcé. Et il y a également une épuration de la société, du corps de fonctionnaires en particulier. À ça, il faut ajouter aussi une famine qui, dans la manière dont elle est administrée, et aussi une forme de violence pour ne pas distribuer dans certaines régions de nourriture, qu'on sait que c'est des régions un peu plus agitées. Donc,
plusieurs les régions qui se sont soulevées dès le départ ont été pénalisées au point de vue nourriture, tout à fait.
Tout à fait. Donc il y a plusieurs formes de violence et ça ne s'arrête pas. Et puis après, il y aura aussi également la question du maquis, parce qu'il va y avoir une résistance antifranquiste. Et parfois, la résistance antifranquiste dans le maquis, ça peut être dès juillet 1936, parce qu'en Galice, par exemple, certains prennent le maquis. Et ça dure quelques mois, quelques années. Et puis l'essentiel des maquis, ce sont des maquis qui durent surtout après la guerre, hein, jusqu'au début des années 1950, avec là aussi des violences asymétriques, des exécutions sommaires, avec plusieurs milliers de personnes qui sont victimes dans ce contexte-là. Et puis après, évidemment, on sort du régime de guerre, il va y avoir beaucoup moins de violences, mais ces violences ne vont pas cesser. Franco, d'ailleurs, tient à signer personnellement les actes d'exécution. Et il va y avoir, en plus, à la fin du régime, un regain de violence très important contre les différentes formes de ce qu'on appelle des dissidences politiques. Alors, ça peut être des dissidences étudiantes à la fin des années 60, mais on pense au contexte, le contexte de lutte contre l'ETA en particulier, et d'autres qui donnent lieu à une répression très très importante. Et puis qui va continuer, on aura, là c'est notre histoire, mais Sophie Babi l'a bien montré dans ses travaux sur la transition, qui n'est pas une transition pacifique, qui pas continue parfois avec les mêmes acteurs après 1975, mort de Franco, et même 77 avec un début de démocratisation des institutions. Et puis là, on est les mêmes acteurs qui continuent les mêmes pratiques de répression, et certains restent à la tête de sections de police durant des années, et le disent très très clair. Hein. Il y avait notamment le cas de Billy El Niño qui dit « nous on est toujours là ».
Oui, les gouvernements passent, mais eux ils sont toujours là. Et on peut se poser la question de savoir si le roi Juan Carlos, dont on a découvert financière sur le tard, était vraiment si démocratique que cela.
Alors, c'est une grande question que je maîtrise moins par rapport à mes spécialisations, mais. Bon, Juan Carlos, il a été formé comme successeur du régime. Ça, c'est un point évident. Formé comme tel. Par ailleurs, c'est quelqu'un qui, est aussi arrivé, qui a fait le choix de la démocratisation. C'est aussi un choix qu'il a engagé. Un choix, après, c'est toujours la question, en quelle mesure il était obligé à ce choix ? En quelle mesure il a aussi fait avec les circonstances pour rester et sauvegarder la monarchie plutôt qu'essayer de résister et de tout perdre.
Tout à fait. Donc
voilà, il y a pas mal de débats qui sont engagés autour de cette question. Mm-hmm. Et puis aussi la tentative de coup d'État au début des années 80, là où il ne suit pas.
Et
là encore, on se demande qu'est-ce qu'il pouvait faire vraiment. Est-ce qu'il avait intérêt à suivre cette tentative de coup d'État ? Mais bon, là, il y a pas mal de collègues qui parleraient bien mieux de cette question que moi.
Mais bon, au moins, on a posé le cadre. Alors, pour en revenir à l'armée et l'Église, et ça c'est quelque chose qui est très bien démontré dans le livre, c'est un travail remarquable, vraiment ça a été un plaisir de lire votre ouvrage, Pierre, Mercedes et François, c'est de montrer à quel point, dès le départ, même du temps de la monarchie, l'Église et l'armée sont les figures tutélaires contre la République. Parce qu'il y a eu une première République, et là, on parle de la deuxième République. Mais l'armée et l'Église, c'est le problème, c'est le nœud du problème, si je puis me permettre.
Nœud du problème et structure...
Des caciques.
Voilà, une structure importante dans la société espagnole. Parce que on a souvent dit que la République espagnole a été inachevée, mal installée. C'est pas faux du tout. Elle s'installe vraiment avec la guerre d'Espagne. Mais en fait, en disant ça, on passe à côté peut-être d'une conclusion importante. C'est plutôt l'État espagnol qui est mal installé.
Tout à fait.
Pourquoi ? Parce que, et c'était le cas avant, et c'est pour ça que Primo de Rivera, Miguel, le père de celui dont on parlera sûrement ensuite, José Antonio, qui avait été dictateur sous la monarchie entre 23 et 30, lui, il tâche d'installer voilà, un État beaucoup plus présent, ce que dirait Schmitt, un État total, c'est-à-dire qui intervient dans toutes les sphères de la société. Pourquoi ? Parce que l'Espagne, elle n'est pas passée par la Première Guerre mondiale.
Oui.
Comme la France ou d'autres pays. Avant la Première Guerre mondiale, les sphères d'intervention de l'État français restent assez limitées. La Troisième République, elles sont importantes, mais elles restent beaucoup plus limitées qu'après. Il y a vraiment un avant-après. L'Espagne n'est pas vraiment passée par ce avant-après. Et de fait, dans ce contexte-là, l'armée, qui a un rôle politique important, multiplie les interventions politiques. On parle voilà, des pronunciamientos, des coups d'État. Il suffit de se prononcer. Suffit, voilà, contre l'État, faire tomber le gouvernement. Donc, on compte de nombreux ministres. Miguel Primo de Rivera lui-même était un militaire, on en compte beaucoup d'autres. Et puis l'Église, d'une manière assez différente, en fait. Il y a ce qu'on appelle un catholicisme social, il faut faire attention, ce qui n'est pas socialiste.
Non.
Le but de ce catholicisme social, c'est d'infuser partout dans la société, de changer cette société. Et. D'agir avec la presse, notamment le journal El Debate, dans le débat public, et puis de servir de structure d'encadrement. Miguel Primo de Rivera, quand il crée son parti, l'Union Patriotique, qui est une sorte de parti, pas unique, mais en tout cas parti officiel avant la République, il part des structures de l'Église, de ce catholicisme social. Et ça, c'est un point assez important, ce à quoi il faut rajouter avec ça, un troisième type d'acteurs, ce sont les caciques, ce sont des notables, en fait, les caciques, qui ont un rôle très important localement, hein, qui vont être des élus, représentants locaux, et qui, dans un contexte d'un État central moins fort, puissant, vont servir véritablement d'intermédiaire. Dans ce contexte, la République arrive en avril 1931, et elle doit composer avec le pouvoir de l'armée, le pouvoir de l'Église, le pouvoir des caciques, qui vont freiner toutes les volontés d'émancipation.
Et d'installer l'état de droit.
Exactement, associé à la République. Parce que quand cette République est une République sociale, il y en a hors de question. On accepte, ça dépend, hein, c'est là où ça va se complexifier, on n'est pas tous contre l'armée, ou tous contre l'État, excusez-moi, ou pour l'État, mais ça peut être une République d'ordre, où certains sont capables d'en accepter la forme, au moins temporairement. On parle de position accidentaliste. La République est un accident, on veut en sortir à terme, mais on peut en accepter la forme. Ça a été le cas en France, au début de la Troisième République, dans des milieux conservateurs, monarchistes, etc. Et on a un peu le même dilemme ici, sauf que les résistances sont beaucoup plus fortes et avec un État qui est beaucoup moins fort. Et donc la République va avoir du mal à faire appliquer les grandes décisions d'émancipation qui sont associées à ses débuts sur les questions de la terre, sur les questions de l'égalité civile. Il y a des choses qui sont mises en place, mais c'est inachevé. Et sur la question des régulations des rapports au travail, hein, il y a beaucoup de conflictivités sociales qui sont liées aux questions du travail, de la terre, mais aussi à l'usine. Et ça va expliquer une espèce de quiproquo très important sous cette République entre une République qui est censée amener l'émancipation, pourquoi pas l'amener, pourquoi pas du réformisme, pourquoi pas, mais qui ne veut pas du tout, dans les penseurs de cette République, cette seconde République, de quelque chose qui la dépasse, qui soit hors de contrôle, encore moins de velléité révolutionnaire. On n'est
voilà,
pas là.
Voilà. Et d'ailleurs, le Front populaire, j'ai bien aimé la formulation que vous avez faite, c'est-à-dire cette union des gauches, mais la formulation exacte pour le Front populaire, c'est la. Je retrouve mes notes.
Coalition électorale. Mais
c'est une coalition électorale, mais sans
programme. Objet.
Non. Alors, hop, c'est pas ça.
Si je peux, du coup.
Oui, vas-y, ouais, je t'en prie. Mais je suis en train de finir.
Bon.
Alors, hop, c'est-à-dire, c'est une république. Le Front populaire, c'est une victoire électorale sans élan révolutionnaire. Voilà.
Oui, effectivement, il n'y a pas de. d'élan révolutionnaire. Alors, il existe des velléités révolutionnaires. Il y a une partie des anarchistes, notamment, qui sont révolutionnaires. Voilà, donc ça, ça fait aucun doute. Hein. Il n'est pas question, comme certains ont pu caricaturer notre ouvrage, de dire qu'il y a, c'est pas ce qu'on dit d'ailleurs, qu'il n'y a pas de révolutionnaire, mais si, on n'est pas dans une tendance à la révolution, encore moins dans les dernières années d'avant-guerre.
Tout à fait.
Comme dans d'autres pays d'ailleurs, comme en France, avec d'autres forces politiques, on a eu parfois un rapprochement sur fond de montée des fascismes, en disant, bon, il y a un danger qui est plus fort, et donc on ne veut pas forcément de la révolution tout de suite, à terme, pourquoi pas, on discute des méthodes. Donc ce n'est pas le cas des socialistes qui sont, de mon point de vu le pivot central de cette république et de la république en guerre. Pas les communistes, pas les anarchistes, pas d'autres, ce sont eux, et notamment l'aile droite en fait, du Parti Socialiste. Et d'un autre côté, on avait déjà des discussions aussi, hein, des milieux anarchistes. On a notamment les trentistes, hein, du manifeste des 30, qui disent, voilà, on veut peut-être discuter des moyens, pas tout de suite, discuter avec les réformistes. Et ça, il y a des vraies crispations et des vraies divisions et des débats très très forts au sein de la mouvance libertaire. Et puis encore des tensions, on pourrait y revenir, entre les structures centrales et puis les structures militantes. Et puis encore, et là on va complexifier quand on regarde selon les régions, avec les traditions politiques propres. Ce qu'on dégage de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de volonté d'aspiration révolutionnaire. Ça, c'est plutôt une construction médiatique, propagandistique de la droite, qui prend certains événements,
les monte en épingle.
Voilà, on déforme le sens et la portée. On va prendre trois anarchistes qui affrontent communistes, un affrontement contre des forces de l'ordre. On transforme ces 3 ou 4, 5 en 50, et puis cet affrontement avec des forces de l'ordre en tentative de révolution, de prise de contrôle des casernes de la garde civile, etc. Donc il y a vraiment cette tendance-là de désinformation qui veut faire croire à une tentative révolutionnaire pour mieux justifier un coup d'État préventif.
Et la répression brutale des forces de l'ordre, qui sont en relation étroite avec les caciques. Alors, Hakim, nous allons revenir sur la spécificité de la guerre coloniale au Maroc et expliquer pourquoi Ceuta et ce qui s'est passé cet été est important.
Alors,
dans cet angle-là.
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse ici, de parler de la guerre coloniale. La guerre coloniale, mais on devrait peut-être dire plutôt des guerres coloniales. Parce que quand vous commencez votre livre en parlant non seulement du Maroc, mais aussi
de Cuba.
Vous parlez aussi de Cuba. Vous expliquez, Pierre Salmon, que l'armée dans ces années-là est quand même mue par une certaine... Merci. Vous pouvez... vous expliquez que l'armée est mue par un certain orgueil, mais aussi parce qu'il y a des mobilisations à cette époque-là. Bon, de toute façon, en France, il y a le service militaire. En Espagne, pour le coup, je ne sais pas exactement comment ça se mettait en place, mais il y avait de la mobilisation pour aller combattre. Et ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, l'armée ressentait un certain besoin d'affirmer son autorité, mais parce qu'effectivement, il y avait un impérialisme qui existait.
Des défaites militaires retentissantes.
Oui, parce qu'à Cuba, effectivement, il y a eu une défaite militaire et non des moindres. S'agissant du Maroc, c'est autre chose, c'est même bien autre chose, parce que le protectorat espagnol est créé en 1912, en même temps que le protectorat français. Alors là où il y a une petite différence, c'est que la France est déjà sur le terrain depuis plusieurs années et va y rester jusqu'en 1930. Et quand je dis jusqu'en 1930, dans les années 1930, c'est pas jusqu'à l'indépendance de 1956. C'est jusqu'à ce que, théoriquement, il n'y ait plus de combat. Ça, c'est ce que je sais de cette période-là. S'agissant du Maroc, effectivement, comme tu l'as dit, Mariama, Franco part faire la guerre du Rif en 1921, je crois, si je ne me trompe pas. Après, peut-être... Vous pouvez réagir,
Je
me trompe.
Avant.
Début
des années 10.
Attention,
j'ai fait des allers-retours, en fait.
Oui, voilà. À partir de 1911.
Oui, mais j'ai dit guerre.
En 23.
Mais j'ai dit guerre du Rif. J'ai pas dit.
Dans le Rif, ok.
Ah, mais pourquoi?
Ah oui.
Et voilà, ça compte parce que. Non, mais ça compte ici, je pense, parce que la guerre du Rif a été faite en coopération avec la France.
Tout à fait.
Il y a eu, à partir, je crois, du suicide du général Sylvestre, il y a eu, je crois qu'il il me semble qu'il a été relevé par Franco, ou je ne sais pas si Franco était déjà là à ce moment-là. Toujours est-il que Franco combat les troupes Rifen de l'émir Abdelkrim avec Hubert Lyautey, le maréchal français Lyautey, qui d'ailleurs se fera relever en 1926 par le maréchal Pétain, toujours lui. Mmh. Donc voilà. Mais du coup, en quoi tout ce contexte militaro-colonial, qui sont très simples, enfin en tout cas qui me semble importante, mais je pense que vous le développez très bien de toute façon, en quoi ce contexte militaro-colonial joue sur l'ascension de Franco dans le système politique espagnol, et comment est-ce que ça a favorisé tout simplement sa prise de pouvoir en 36? Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus, Pierre Salmon?
Alors, c'est important, c'est vrai, c'est guerre coloniale, et merci de l'avoir relevé. Nous, il me semblait que c'est quelque chose qu'on voyait pas forcément dans l'état de l'art en français sur les guerres d'Espagne. En Espagne, c'est très connu, hein, en tout cas pour ceux qui travaillent sur le conflit espagnol. Déjà parce que il y a eu des pertes des colonies, et ça on le sait bien, à la fin du 19e siècle, 1895, dans un conflit contre les États-Unis, donc Guam, Porto Rico, Cuba, les Philippines, sont perdus dans le cadre de ce contexte. Ce sont des conflits très meurtriers, et puis qui touchent au plus profond l'orgueil national.
Et qui ont coûté une fortune au trésor national.
Qui coûtent beaucoup, beaucoup de vie, beaucoup d'argent, et puis qui vont créer une vraie crise dans la société. Et d'ailleurs, à droite comme à gauche, hein, mais avec des conclusions différentes. Mmh. Et on va parler, à partir de ce moment-là, d'une crise de la race, d'une dégénérescence. Pourquoi l'Espagne n'aurait pas un destin commun à celui des grandes nations, qui, à cette époque, on calcule être une grande nation au regard de la constitution d'empires, mais en particulier d'empires coloniaux,
extra- comme la France et
ultramarins notamment, mais pas seulement. Et donc, dans ce contexte-là, la perte des colonies a des conséquences très importantes politiquement, et il y a la volonté un peu de reprendre du terrain sur le Maroc, où l'Espagne était déjà un petit peu installée dans certains espaces, et on développe à partir de 1909 ce conflit qui va se passer très très mal, qui va donner lieu à des vagues de... Il n'y a pas de conscription, il n'y a pas de système de conscription militaire en Espagne, si bien qu'il y a un système de tirage au sort, et souvent ce sont les plus pauvres
qui ne peuvent pas payer.
Voilà, des milieux politisés qui se révoltent. Hein, l'assassinat de Ferrer et les révoltes à Barcelone en 1909, c'est sur ce contexte-là, hein, de révolte contre les levées de troupes. Et surtout, à partir du début des années 20, il y a plusieurs vagues de conflits, mais là, ça s'accélère avec une défaite très très importante à Anual. Des milliers d'Espagnols qui meurent, hein, ça crée des véritables scandales, des scandales très très importants. Et il y a notamment une commission d'enquête de Picasso, qui est l'oncle ou grand-oncle de Picasso qu'on grand-oncle de Picasso qu'on connaît pour comprendre, en fait. Et ben, conclusion qu'on peut avoir en Allemagne dans l'après Première Guerre mondiale ou ailleurs, et ben, c'est pas de la faute évidemment des militaires. Il faut trouver des coupables, et les coupables, ce sont les politiques. Donc ça crée évidemment lecture militaire des défaites militaires, mais ça crée évidemment, il y a évidemment des conséquences politiques à tout ça en métropole. Ça, ce qui est important, c'est que cette guerre coloniale, elle va avoir plusieurs effets, plusieurs conséquences. On parle de la guerre du Rif, là, entre 25 et 27, notamment dans ses conclusions, avec Pétain qui est sur place, avec la répression, la capture d'Abdelkrim, et puis la répression des Rifains. Donc ce conflit, il est assez important, parce qu'on met en place une guerre asymétrique, d'une part. Cette guerre asymétrique, y a énormément de soldats qui passent, qui sont ensuite des agents du maintien de l'ordre. En Espagne, il y a des allers-retours, et de la même manière qu'on peut avoir aussi en France ces circulations des savoirs répressifs. Et les gardes civils qui s'opposent aux Andalous, aux Estrémènes ou aux Asturiens qui se révoltent pour des questions d'accès à la terre ou autres, eh ben, ils mettent en place les mêmes techniques de maintien de l'ordre qu'ils avaient pu mettre en place en contexte colonial. Ça, c'est important de le comprendre, pour comprendre vraiment ces habitus policiers en général. Autre chose derrière ça, c'est qu'il va y avoir un discours messianique de restaurer la grandeur de la nation. Des personnes comme Mola, comme Sandro Rojo, qui est censé être le chef du coup d'État de juillet 1936, mais qui meurt dans un accident d'avion, parce qu'il avait mis, la légende dit, trop de costumes de gala dans son avion qui s'écrase au décollage. Franco, évidemment, je vais y venir, toutes ces personnes-là développent des discours sur l'interventionnisme militaire, sur la destinée de la nation et sur le besoin de la purifier, de l'épurer contre les ennemis extérieurs. Et ça se fait souvent, pas seulement, mais sur ce contexte colonial. Et Franco en particulier, parlons-en, il y a eu une fabrique hein, de sa célébrité à l'aide de campagnes médiatiques. Il était considéré comme étant un des favoris du roi, Alfonso XIII. Et puis, on en fait, c'est pas vrai, mais le plus jeune général de l'histoire européenne, peut-être à égalité avec Napoléon. Tout ça, c'est une construction à l'aide de une de journaux, à l'aide de petits reportages photos. Et c'est très, très important parce que Franco, vraiment, il a une carrière éclair. Il n'est pas le seul, hein, mais il est, comme d'autres, il a une carrière éclair sur fond de guerre du RIF. Il l'anime, dirige très rapidement la Légion espagnole qui a été fondée par son très très proche collaborateur Millán Astray. Et voilà, on a là un peu plusieurs ingrédients qui vont être réemployés sur ce terrain espagnol. Et certains le diront très clairement, l'Estremène qui se révolte ici, c'est un rifin de plus. Hein. On le dit parfois très très clairement dans le texte, il y a une assimilation. Et qui dit assimilation, qui peut expliquer, il n'y a pas que ce facteur-là, évidemment, mais c'est une des clés pour comprendre la violence qui est mise en place dans ce contexte de République, d'avant-République, et puis ensuite de guerre civile. À ça, il faudra ajouter d'autres évidemment critères, notamment la peur du communisme, qui est très très présente en Espagne avant même 1917, mais qui prend un sens différent avec la Révolution russe.
Alors, Johan vient de nous rejoindre.
Oui, contrairement au Front populaire, j'arrive avant la fin de la guerre.
Voilà. Bon, alors, Johan, je te laisse le temps de t'installer.
Oui, c'est bon.
Je vais poser une question à Pierre Salmon. Pierre, ce qu'il y a de bien dans le livre, qui est bien montré aussi, c'est la période coloniale, mais transposée côté espagnol, ça tu l'as bien démontré, mais il y a aussi le fait que le fait colonial va devenir la norme de cette armée et elle va devenir, comment dire, le fer de lance de ces pratiques qu'ils vont transposer dans la guerre. Et ça va aller jusqu'à la lutte contre l'ennemi intérieur et l'effacement de tout ce que la République a pu produire. Mais ça, tu l'expliqueras mieux que moi. Et surtout, il y a un contexte qu'on n'a pas expliqué. La démocratie libérale contre le militarisme, contre le nationalisme, c'est-à-dire que c'est le contexte international, c'est la troisième internationale ouvrière, dirigée depuis l'URSS. L'ennemi intérieur, c'est une obsession fasciste des discours anticommunistes. Par exemple, de Mussolini, mais même qui est admiré par un certain Churchill.
Churchill, Gandhi, même un peu Josephine Baker à un moment.
Voilà.
Il a un pouvoir d'attraction phénoménal, Mussolini.
Incroyable. Et ça, c'est bien de le replacer dans le contexte de la guerre, de la Révolution espagnole.
Bah, Churchill, s'il l'admire, c'est parce qu'il se dit on a peut-être trouvé un rempart face au communisme, face au danger communiste. Et ça, c'est important de le situer. On se dit, bon, et c'est une phrase aussi qui est attribuée à Churchill, je crois, ou à un autre dirigeant britannique au début du conflit espagnol, en disant, bon, s'il y a des fascistes et des communistes qui s'entretuent, c'est pas notre affaire.
Voilà. Et ils vont laisser faire. Et ils ne vont pas intervenir, et surtout, ils ne vont pas proposer leur aide.
Oui. Oui, et puis surtout, il est question avec la France dès octobre 1936 de reconnaître Franco. On tisse des liens économiques, paradiplomatiques, et puis on recule au moment où la République résiste.
Voilà.
Première grande victoire défensive des Républicains à Madrid en novembre 1936.
Alors, du coup, Madrid devient un point focal. Donc, ça, vous le montrez bien dans le livre, mourir à Madrid ou défendre Madrid, ça devient l'enjeu de la révolution espagnole.
Et de l'antifascisme.
Et de l'antifascisme. Et je, il y a le documentaire de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, qui expose, qui à mon avis est, est de loin un des meilleurs documentaires sur, sur ces, tous ces enjeux. Mais il a été vilipendé, bon... comme ça, à sa sortie, comme c'est pas permis. Frédéric Rossif, d'ailleurs, a eu du mal à trouver des financements pour faire d'autres films par la suite.
Oui, bah, c'est vrai qu'il y avait cette référence hein, de Mourir à Madrid, c'était un point très très important, une focale en fait sur le fait que, et ça il faut le rappeler, jusqu'à cette victoire de novembre 1936, on pense que c'est perdu pour la République. Et il y a de quoi le penser, puisque à peu près 90%, à la fin de l'année, en décembre, 90% des diplomates républicains ont démissionné ou sont passés du côté franquiste.
Tout à fait.
L'économie est totalement à reconstruire. La moitié de l'armée est, est tombée en situation d'insurrection, enfin tombée, bel euphémisme. Et dans cette moitié qui est restée du côté républicain, on reconstruit une armée parce qu'on sait qu'il y a aussi beaucoup de ce qu'on appelle des loyaux géographiques qui se trouvent dans une caserne qui restait fidèle, mais en même temps dont on doute un peu de la loyauté.
Mais on fait avec.
On fait avec, ou alors on les met, on les sort de leur devoir d'obéissance, voire pour certains sont exécutés, et on se retrouve dans des situations où tout est à reconstruire. Il faut trouver des soutiens, et puis on n'a pas d'armes. Donc c'est un sacré problème, et donc dans la situation d'embargo international.
Et ça, tu l'as bien montré dans ton précédent livre, un antifascisme de combat, tous les réseaux qui pour armer l'Espagne républicaine.
Voilà, effectivement, et dans ce contexte-là, bah, il va y avoir un phénomène de solidarité militante, hein, des militants qui prennent des fusils, qui essayent de s'organiser en France, ailleurs. Et puis ensuite,
et qui se rapproche même des réseaux mafieux et
pour
et
se criminels. Faire, tout à fait. Et puis l'enjeu de la République, il est ailleurs. Reconstruction du pouvoir républicain. On va lutter contre ce qu'on appelle la dispersion des efforts. On parle de ça. On parle de dispersion des efforts, c'est-à-dire dispersion régionale, Catalogne, qui aurait trop de pouvoir, ou gouvernement même régional valencien. Et puis évidemment la dispersion politique. Hein, on lutte contre les révolutionnaires qu'on accuse d'être la cause de la défaite parce qu'ils ne voudraient pas centraliser les efforts. C'est dans ce contexte-là qu'il faut comprendre tout ça. Et puis la volonté pour la République de remettre la main sur l'économie, sur l'achat d'armement. Et donc ce que demandent les Républicains, c'est surtout et avant tout des traités d'État à État. Ils ne demandent pas, même pas des armes au départ à l'Union soviétique, ils demandent à la France de lui fournir des armes en vertu des accords qui avaient été signés par exemple en 1935.
Oui, et que, que Léon Blum voulait respecter.
Voilà, que Léon Blum voulait respecter, mais en même temps Léon Blum voulait respecter, mais c'est lui qui prend la décision
de ne pas les respecter.
De ne pas les respecter. Donc il y a son tiraillement, on est beaucoup revenu sur son tiraillement. Moi, je préfère citer Blum pendant et après la guerre d'Espagne, où il a dit « j'ai trop peu fait et trop tard ». Il était lui-même lucide sur ce qu'il avait fait ou pas fait. Et puis après, il y a une légende qui s'est construite autour de Léon Blum et qui aurait voulu faire dès le début, qui aurait tout fait pendant tout le conflit, ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est même c'est pas ce qu'il a lui-même dit.
La preuve, c'est que sa ministre, Joliot Curie, a démissionné parce que justement, elle disait « il faut armer l'Espagne ».
Oui, puis d'autres, il y en a pas mal d'autres hein, qui sont intervenus. Après, on est dans une situation assez complexe entre interventionniste et non-interventionniste, et quelqu'un comme Pierre Cotte, alors qu'on met... C'est pas pour sauver les radicaux du tout du gouvernement du Front Populaire, mais on dit voilà, c'est les radicaux qui sont opposés. Bon, Pierre Cotte, qui est un radical, lui est vraiment à l'avant-garde de l'aide à l'Espagne républicaine. Il envoie des avions, surtout des avions désarmés au début du conflit. Les Espagnols sont un peu surpris, mais bon, il fait ça dans le cadre de la légalité, on va dire. Ensuite, lui, il appuie énormément. On retrouve dans les échanges de l'ambassade républicaine à Paris les personnes hein, qui appuient pour aider l'Espagne républicaine et des quelqu'un comme. Herriot, ça c'est surprenant. Herriot, au début, il dit à Léon Blum, il dit absolument pas, Léon ne va pas dans cette affaire. Quelqu'un qui est pas forcément dans le spectre politique révolutionnaire, on va dire. Maire de Lyon, très conservateur, il continuera à avoir beaucoup de pouvoir dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Lui, ensuite, en 1938, on le trouve dans la documentation, il dit, le conflit est long, il évolue, et il dit, il faut vraiment intervenir.
Je crois qu'on a sous-estimé, et ça tu le montres bien, vous le montrez bien tous les trois avec la préface. Est-ce un crime pour un peuple de défendre sa liberté? José María Aguirre, à propos du bombardement de Guernica en 1937. Guernica a été un tournant. Quand on voit la façon dont ça s'est fait, la Légion Condor qui bombarde un village pour tester les armes, l'entrée en guerre de Hitler aux côtés de Franco, ça a dessillé les yeux de beaucoup de politiques qui se sont dit « oulala ».
Ouais. Et c'est intéressant parce que tu vois, tu as dit les Allemands, mais il y a aussi les Italiens qu'on oublie toujours dans ce bombardement. Ils ont quelques avions, c'est pas leur projet, mais ils accompagnent. Non, mais c'est vraiment intéressant de le comprendre parce que Guernica, ça peut paraître surprenant, n'est pas le bombardement le plus meurtrier ni le plus important dans le conflit. Il y a eu Durango quelques semaines avant où il y a autant de morts, c'est par la flotte italienne, aérienne italienne. Il y aura le bombardement de Barcelone par les Italiens avec plus de 1000 morts. Là, on est environ à 200-250. Tout se calcule pas en nombre de morts, mais avec une destruction de la ville à 80%. Et surtout, là, on se dit, voilà, ça, c'est la nouvelle guerre. C'est la guerre totale, fasciste, avec la destruction, ou nazie plutôt, la destruction totale de la ville. Et il y a d'abord en France, parce qu'on perçoit le danger principal, on le voit dans l'Allemagne nazie, et pas nécessairement dans l'Italie. Non. On l'a dit tout à l'heure, il y a une certaine attraction pour Mussolini, qui dépasse les seuls cadres fascistes ou proto-fascistes français. Et puis surtout, on espère s'allier avec l'Italie. Jusqu'en 1940, on espère désolidariser, même si on sait que depuis 36-38, ça sera très compliqué, qu'il y a eu un rapprochement sur fond de conflit espagnol, mais pas seulement. Mais on se dit peut-être que l'Italie va ne pas suivre Hitler et que ça serait plus le même conflit. On a peur de l'encerclement, donc on essaye de défaire un peu cet étau en se disant si on est seulement contre l'Allemagne, ça pourra aller. Mmh. Mais l'Allemagne, c'est l'ennemi numéro un. Et puis on traduit à cette époque Mein Kampf, et dont on voit dans le texte, le but, c'est d'annihiler la France par tous les moyens. Et c'est ça qui fait peur. Et c'est ce qu'on voit là avec Guernica. Et c'est ce qui explique que des milieux, même catholiques, à ce moment-là, vont plutôt rentrer dans ce que Cédric Eren parle de cause refuge. On va certainement pas armer des militants anarchistes.
Mais on prend les enfants.
Voilà, mais on prend les enfants, on va dans une cause qui est moins clivante pour aider des victimes. Et c'est aussi ça, et ça c'est important, je vais juste finir là-dessus, parce que la République, on a souvent, qu'on a parlé, et ça on le voit, je pense que c'est typique dans les programmes scolaires, on voit l'Espagne comme le théâtre d'intervention des totalitarismes. Et là-dedans, on oublie les Espagnols et les Républicains, qui eux-mêmes ont alimenté une propagande à destination des publics francophones, anglophones ou autres. Et eux, ils ont insisté sur le danger nazi, d'encerclement, et ils ont insisté aussi sur l'image, plus seulement du milicien ou de la milicienne qui lève le poing avec un fusil, mais de la femme et l'enfant, la veuve et l'orphelin, victime de guerre. Et ça, ça a eu vraiment un impact dans les sociétés européennes.
Alors, concernant l'Italie, j'ai découvert dans votre livre le rôle de l'Italie plus profondément dans le conflit espagnol, dans la Révolution espagnole. Moi, j'en étais restée à un excellent film qui montrait l'entrée de l'Italie dans la Première Guerre mondiale, Les Hommes contre, et qui montrait comment, petit à petit, l'Italie s'insérait dans l'Europe, entre guillemets. Donc c'est pour ça que les gens espéraient que l'Italie se ferait alliance jusqu'au bout et n'irait pas dans le conflit côté... Et en plus, il y avait la bataille d'Adoua, où elle avait perdu beaucoup dans un conflit colonial. Voilà, contre les Éthiopiens. Donc, il y avait tout ce contexte-là. Donc, l'Italie, il ne faut pas la sous-estimer. Mais il ne faut pas non plus oublier que les Espagnols, il y avait un des généraux espagnols qui était appelé Mussolini par le...
Là, c'est Miguel Primo de Rivera, dictateur, par le roi d'Espagne,
Alfonso XIII. Donc, il y a une fascination pour l'Italie depuis très très longtemps.
Oui. C'est vraiment important, ça. Alors, il y a plusieurs choses. Du côté italien, il y a peut-être quelque chose en France qu'on a mal compris et on est passé à côté du sujet. C'est que l'Italie est du côté des puissances qui ont gagné la Première Guerre mondiale, mais elle estime que c'est une victoire mutilée. Qu'elle n'a pas obtenu ce qu'elle espérait avec cet engagement, notamment certains territoires frontaliers. Et il y a l'Éthiopie, mais c'est surtout la question... après, il va y avoir la question coloniale qui va être beaucoup mise en avant dans l'entre-deux-guerres. Mais derrière ça, il y a aussi une autre question. On dit, mais nous, on voulait les territoires de Fiume, de Trieste. Et c'est D'Annunzio qui parle de victoire mutilée. Et là, on dit, on s'est fait... on s'est fait avoir par cet engagement. Il y a une injustice et on veut... Et ça va être tout un... voilà, une propagande à partir surtout des années, fin des années 20, début des années 30, du régime qui fait d'abord des batailles à l'intérieur et ensuite petit à petit à l'extérieur. Mmh. Ça va aller sur le terrain colonial et puis ensuite avec un irrédentisme, c'est-à-dire voilà, de capter des territoires où il y a des minorités frontalières de plus en plus importants. Puis à la fin, en 38, on est carrément à dire que bah, les Italiens doivent récupérer la Tunisie, par exemple, parce que la majorité en fait, des citoyens, qui sont des citoyens français, sont d'origine italienne. Et l'Italie, ils ont eu pendant longtemps un statut très spécifique, citoyen un peu spécifique, et où ils gardaient cette spécificité italienne, et donc ils veulent prendre ce territoire éthiopien. Donc là, on arrive avec des choses beaucoup plus frontales par rapport à la France.
Tout à fait.
Mais il y a ce jeu. Et pour comprendre le conflit espagnol, il faut comprendre cette relation de la France à l'Italie, parce qu'Alexis Léger, qui est le Saint John Perse aussi, parce qu'il n'a pas seulement été diplomate, il a été secrétaire du général du Quai d'Orsay et auteur et prix Nobel de littérature. Et donc, avant d'être prix Nobel de littérature, au Quai d'Orsay, c'est lui, il y a des changements de ministre, mais c'est lui qui tient en bonne partie de la diplomatie française et qui souffle aussi à l'oreille de Léon Blum. Et lui, il dit, bon, déjà, il ne faut pas s'engager dans ce conflit. Et puis surtout, bah, sur fond de conflit avec l'Espagne, mais avec l'Italie, on peut peut-être négocier. Et en espérant désolidariser l'Italie, en leur donnant des garanties sur le sol espagnol. Voilà. Donc si bien que les Espagnols insurgés franquistes parlent aux Italiens en disant demander à la France de fermer la frontière, ouvrir au flux d'armement, ou d'arriver à un accord de paix, ou de que la République dépose les armes. Donc ça va passer sur ce terrain-là, donc on va donner des garanties, et surtout à partir de 38, on va petit à petit lâcher la République espagnole pour se rapprocher, espérer se rapprocher, c'est un échec de l'Italie.
Alors, on se rend compte à quel point, grâce à votre livre, la géopolitique, l'Espagne a été un terrain géopolitique. Mais avant tout. Et on comprend mieux le bandeau, la première guerre globale contre le fascisme. C'est incroyable. Par exemple, on ne mesure pas à quel point l'Italie n'avait aucun intérêt à ce qu'il y ait une démocratie du côté méditerranéen. Donc elle avait tout intérêt à enfoncer l'Espagne.
Bah, tout à fait. Et puis il y avait, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai, une fascination. Donc et en Espagne en particulier, c'est vrai que sur fond de dictature de Primo de Rivera, il y a eu des rapprochements. Je crois que l'État espagnol est un des premiers États à avoir fait des visites officielles en fait, auprès de Mussolini. Donc il y a vraiment un rapprochement très très précoce, un intérêt. Et puis Miguel Primo de Rivera, il va mettre en place un système où il veut voilà, installer une main de fer hein, pour gouverner. Et pour ça, il s'inspire énormément du modèle mussolinien. Avec un système de corporation, un système de parti officiel, mais pas de parti unique, c'est une petite différence. Avec la militarisation d'organisations paramilitaires qu'on essaye d'intégrer dans le giron de l'État. Donc beaucoup de choses qui sont vraiment inspirées. Donc c'est un régime fascisant. Et ça, les Italiens et d'autres le reprocheront vraiment vertement à Miguel Primo de Rivera. Et même José Antonio, le fils, dira, on n'est pas aller assez loin, c'est un fascisme inachevé d'une certaine manière, le modèle est là, mais ils ne sont pas allés au bout du système en laissant des oppositions, notamment les socialistes hein, qui existent toujours et qui ont traite, il y a d'autres syndicats qui existent en parallèle de la corporation, et puis l'Union patriotique n'aura jamais l'assise d'un parti de masse, même s'il a eu énormément ça, on a dépassé le million hein, peut-être même les plus de 2 millions, mais on n'aura pas eu un parti comparable au parti national fasciste italien, donc on parle de voilà, il y a un modèle qui est là, le modèle n'a pas été tout à fait appliqué, et après c'est le but de certaines organisations fascistes en disant, avant ou pendant la guerre, en disant, bon, maintenant, il faut aller au bout.
Oui.
Et j'ai l'impression aussi, si on ne l'a pas déjà abordé, que il y a une internationale fasciste qui fonctionne mieux que l'internationale démocrate, progressiste dans le soutien dans cette guerre civile, en fait.
Bah, ça dépend de quoi on parle dans l'international. Si c'est une structure comparable à la Troisième Internationale, non. Par exemple, non, parce qu'il y a eu des tentatives, il y en a eu plusieurs. Il y a une internationale antisémite, il y a une internationale anticommuniste, avec Théodore Robert, il y a eu une internationale fasciste, les comités d'action pour l'unité, la défense de l'universalité, pardon, de Rome. Et puis il y a eu une tentative d'internationale nazie aussi. qu'on pas prise. Hein. C'était plus ou moins abouti, mais ça n'a pas vraiment pris. Mais par contre, il y a un vrai rapprochement, une vraie solidarité. Les liens sont des parts concurrentielles, mais les objectifs communs effacent un peu ces choses-là. Là où la France et l'Angleterre ne marchent pas vraiment à l'unisson à ce moment-là. L'Italie et la Grande-Bretagne se rapprochent vraiment à grands pas. Hein. Jusqu'au début 1939, il y a des traités entre l'Italie et la Grande-Bretagne.
Tout à fait. Hein. Au niveau des armes.
Et donc, ça, c'est assez important de le comprendre, là où l'Allemagne et l'Italie, là, par contre, sortent de ce conflit espagnol véritablement rapprochés, en raison, en grande partie, ce rapprochement, c'est le conflit espagnol, et ça, il faut le comprendre, parce qu'on a compris les intérêts communs, hein, l'affaiblissement des démocraties, le réarmement, et puis ensuite, la guerre.
Oui, les cadres se rencontrent, parlent, échangent, se connaissent.
Et font des entraînements sur le territoire.
Ouais, s'entraînent sur le territoire, se rencontrent, et puis les échanges sont de plus en plus denses, hein, de plus en plus cordiaux, et ça c'est aussi important, ouais, de l'avoir en tête.
Alors, pour en revenir à l'international fasciste, en face s'organise l'internationalisme de soutien aux démocraties. Et il y a le fameux épisode que tout le monde a à l'esprit, et on ne peut pas faire cette émission sans en parler, des brigades internationales.
Ah ben,
alors, je fais partie du groupe Louise Michel, la 13e brigade internationale, les francophones, belges et français, s'appelaient Louise Michel. Mm-hmm. C'est mon petit...
C'est important.
C'est important. Ouais. Ils ont pris le nom de cette femme, remarquable, et les brigades internationales étaient organisées par langue. C'était quand même plus facile pour le commandement et pour aller sur les fronts. Les brigades internationales ont trois mots.
Pour les brigades internationales, donc il y a 40 000 volontaires environ en Espagne, et 35 000 vont dans les brigades internationales. Ça part d'une initiative plutôt spontanée de personnes qui veulent se battre, et ensuite c'est très rapidement mis sur pied, organisé, orchestré par l'international communiste, et au sein de cet international communiste, le Parti communiste français. Et ensuite, ça trouve une organisation concrète sur le sol espagnol, avec un quartier général à Albacete, avec André Marti, mutin de la mer Noire, communiste à sa tête. Alors, tous les membres des brigades internationales ne sont pas nécessairement communistes, même si très majoritairement ils le sont. Ce qu'il faut comprendre, c'est que certains arrivent des fois en Espagne pour se battre, et c'est le cas d'Orwell, on rentre dans la première milice.
Alors, Orwell vient pour faire des articles, et il se rend compte qu'il faut se battre,
mais on ne va pas nécessairement rencontrer tel régiment. Et même les Espagnols eux-mêmes, si je dis ça, c'est pour comprendre qu'ils n'attendaient pas forcément des troupes. Au départ, il y a un peu un quiproquo. Et très rapidement, ils comprennent l'importance militaire, même si elle va très très rapidement décroître, cette importance militaire. Il y a des engagements sur les terrains. On a parlé de Madrid, et puis il y a d'autres batailles où ils sont très très vite engagés avec des taux de perte très impressionnants. Ils vont avoir un effet sur le terrain, mais ça va décroître à partir de 37. Et il y a aussi une importance propagandistique, parce qu'on dit tous les peuples du monde sont
à Madrid,
sont ici en Espagne, en train de combattre.
On pense notamment aux Allemands antifascistes qui ont pris le nom de Talman.
Oui, bien sûr.
Qui était en camp de concentration.
Tout à fait.
Leur supérieur.
Et il y a ça, et il y a un rejeu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un objectif de lutte globale, hein, mais il y a un rejeu, ce qui n'empêche pas en fait, de venir avec ses propres projections. Edouard Seale, il l'a bien montré dans ses travaux sur les brigades internationales.
Tout à fait.
On arrive, il y a Louise Michel, chacun a sa lutte, ses symboles, et suit ses objectifs. Hein. On a aussi Tom Mooney pour les États-Unis. Là aussi, c'est un syndicaliste qui a été enfermé sur la base de fausses accusations. Donc il y a Talman. Donc on arrive avec ses propres combats en fait, sur le sol espagnol, avec sa propre culture militante. Et comme Rémy Skoultelsky l'avait déjà montré dans ses travaux là aussi sur les brigades internationales, certains veulent un nouveau Verdun un peu antifasciste, d'autres défendent l'esprit de la Révolution française. Certains vont vraiment lutter contre le nazisme ou le fascisme, ou d'autres pour défendre la République espagnole. Donc il y a plein de choses.
Chacun a ses objectifs stratégiques. Et il y a aussi, est-ce que ça se retranscrit aussi dans l'organisationnel? Est-ce que chaque brigade a des différences opérationnelles par rapport à l'autre.
Elles obéissent au même commandement.
Oui, il y a un même commandement. Après, on ne choisit pas forcément
sur la structure à l'intérieur même.
Alors, je ne saurais pas détailler exactement sur toutes les opérations, mais en tout cas, on a un même commandement. Et après, voilà, elles sont employées sur différents terrains. Après, ce qui est important, c'est qu'il y a certains, des fois, on l'a retrouvé se combattre entre nationaux. Et c'est le cas des Italiens à Guadalajara.
Oui, où qui on se sont a retrouvés en face.
Voilà, face à face. Avec, et là, le combat film antifasciste, littéralement. N'oublions pas, c'est une parenthèse, mais antifascisme, à la base, c'est un gros mot. Hein.
Oui.
En Italie, et en Espagne aussi, très rapidement, c'est... voilà, ceux qui sont contre nous, les antifascistes, et puis ça va devenir, le stigmate va se retourner, ça va devenir une arme politique, et c'est les antifascistes qui ont une culture antifasciste, qui font partie d'une des premières couches antifascistes en France par l'exil, voilà, après se mobilisent en France, et puis aussi évidemment sur le sol espagnol, parce qu'on dit ça y est, on va pouvoir les combattre, ceux qui ont tué nos frères, qui nous ont jetés dehors, voilà, on va pouvoir les combattre, il y en a beaucoup, je pense aussi par exemple à Julio Cerretti, qui était un communiste italien, qui milite au sein du PCF, mais qui a un rôle important dans l'international, et qui va, lui, orchestrer l'envoi d'armement avec notamment la compagnie communiste France Navigation à destination de l'Espagne. Donc là, on a bien la preuve un peu de toutes ces couches. Et puis, Dimitri Manzi aussi l'a bien montré dans son ouvrage sur Rino della Negra. Voilà, sur ces personnes-là qui viennent de leur culture des migrations, qui se mêlent à une culture aussi politique locale et qui va s'articuler après avec une cause globale, ce qui fait qu'on ne peut pas tout enfermer évidemment dans une seule case.
Alors, un excellent film fait à partir de Hommage à la Catalogne de Orwell, de Ken Loach, qui est Land and Freedom, qui retrace bien toute cette variété. Je voudrais que, avant de repasser la parole à
Karim.
À Karim, je voudrais qu'on revienne sur un organe, le POUM, qui a joué un rôle non négligeable et vous en parlez très bien dans le livre. Le POUM.
Le POUM, le Parti ouvrier marxiste.
Voilà.
Non stalinien.
Voilà.
Et qui sont certainement ce qui a la défaite républicaine au sein de la République, une défaite dans la défaite, des révolutionnaires.
Tout à fait.
Tous les libertaires ne sont pas révolutionnaires, mais majoritairement ils le sont. Et par contre, il y en a qui sont presque à 100% révolutionnaires, ce sont ceux du POUM et qui sont grands perdants. Et notamment en mai 1937, d'affrontements entre les représentants de l'État et puis des dissidences politiques, donc qui sont en fait le POUM et des libertaires. Et le POUM est démantelé, dirigeant Nin est assassiné par les services soviétiques. Et puis voilà, les militants, beaucoup sont jetés en prison. Orwell, c'est dans ce contexte aussi qu'il doit partir avec sa femme. Il n'est pas seul, qu'il doit partir d'Espagne. Et là, il y a une vraie culture politique qui disparaît, en tout cas, qu'on veut taire. Parce que, alors ça c'est un point important, on n'aura peut-être pas le temps de développer, mais souvent on parle de trahison de Staline. Moi je ne suis pas d'accord avec le terme de trahison.
Ah non, il est constant avec lui-même.
Trahison, on trahit un frère, on trahit une sœur, un père, un ami. Mais Staline déjà, il ne veut pas intervenir. Il est très clair là-dessus. Il intervient sur pression de l'international communiste et des communistes français en particulier. Et après, ils disent, dès le début, ils disent qu'ils ne veulent pas un engagement constant en Espagne. Ils disent aux Espagnols très clairement, parce que des fois, on a pu le lire dans la littérature dans les années 60, 70, comme quoi ils ferment le robinet avec les armements. Mais il le dit, trouvez-vous des armes vous-même, que la France vous envoie des armes et fabriquez vos armes. Et après, il dit ça. Et après, évidemment, puisqu'il livre des armements et puisqu'il y a un soutien aussi logistique, des conseils, ben ça va pas sans rien. Une fois qu'il le livre, évidemment, il veut pas que les armes tombent aux mains de révolutionnaires. Il veut que ça soit à ses conditions. Il veut que ça soit dans la logique de Front Populaire, celle d'un mouvement réformiste, de rapprochement entre les communistes et des socialistes en particulier. Et ça, ça va évidemment contre la révolution. Et puis ça va avoir des conséquences très concrète avec le démantèlement du POUM.
Voilà.
Et ce qu'on sait peut-être un peu moins, et maintenant qui est un peu mieux connu avec les travaux de Angel Viñas ou d'autres collègues comme Fernando Hernández Sánchez, c'est que ce qui s'est passé, cette immixtion politique, ça a créé un vrai froid au sein de la République espagnole. Et même chez Negrín, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient plus accepter ça, mais en même temps, ils avaient bien besoin d'armement. Ça a créé un vrai froid. C'est pas seulement l'Union soviétique se retire petit à petit, c'est aussi les républicains qui sont bien embêtés de ce soutien et des conséquences que ça peut avoir.
C'est devenu encombrant.
Alors, ils ne sont pas pour les révolutionnaires du tout.
Hein, non.
Mais ça tienne ses proportions.
Ça, vous le montrez bien dans le livre. Les révolutionnaires sont les grands perdants de la révolution espagnole.
Et en sachant qu'on a beaucoup caricaturé ce que pouvait être le sens de cette révolution, on a opposé guerre et révolution de façon un peu caricaturale, alors que certains voulaient faire les deux en même temps, et certains n'étaient pas dupes sur le fait que si au début on met la barricade et l'explosif contre le coup d'État, ils savaient très bien qu'ils ne pourraient pas avoir une vraie guerre dite moderne et du genre avec ces moyens-là. Hein, c'est pas les Don Quichotte qui se disent qu'ils vont arrêter un avion, un Messerschmitt avec un Stuka avec de la dynamite. Ils le savent très très bien.
Ils auraient dû avoir des Spitfire. D'ailleurs, la preuve, c'est que les Allemands, à un moment donné, ils ont demandé à avoir des Spitfire parce que justement, ils avaient la supériorité dans le
jeu. Et les avions soviétiques aussi avaient la supériorité des airs, d'ailleurs.
Tout à fait.
Donc, est-ce qu'il y avait aussi.
Je n'ai pas fini.
Ah oui, pardon.
Je n'ai pas fini. Je voudrais qu'on rappelle que cet état des lieux, Orwell l'a très bien fait dans la quasi-trilogie qu'il a consacrée à la guerre d'Espagne. Donc il y a Hommage à la Catalogne, il y a La Ferme des animaux et 1984, où il explique bien ce qu'il fallait retenir
du stalinisme.
Donc vous les avez tous les trois à la librairie Publico, qui est le siège de Radio Libertaire, 145 rue Amelot, dans le 11e arrondissement, métro République, Oberkampf, aux Filles du Calvaire. Ça, c'était la minute promo. Johan.
Oui, il n'y a pas de souci. Est-ce que Staline a peur d'un modèle politique concurrent si les Républicains gagnent avec une sorte de socialisme démocratique ou
sans aucun doute. C'est évidemment, ça pose problème. Une fois qu'ils s'engagent là, l'Espagne, il n'y a pas une absence de contact. Hein. On a pu le dire parfois, il y a des liens qui existent. Il y a une fascination pour l'URSS en Espagne, d'ailleurs, même chez les militants libertaires, un peu comme en France. On organise des voyages, il y a des amis de l'Union soviétique. On va regarder, en fait, on se dit, c'est quoi ce pays où il y a une révolution et le peuple est au pouvoir. Fascination, répulsion aussi, évidemment. Donc, ce n'est pas totalement inconnu. Et puis, il va y avoir aussi, avec l'intervention soviétique, l'URSS et les communistes, en général, vont incarner ce qu'est la solidarité antifasciste, parce qu'ils vont y aller aussi. Ils savent orchestrer, et ils savent aussi faire beaucoup de propagande autour de mettre en musique et en scène leur aide, et ça compte pour beaucoup, à tel point qu'une partie des libertaires, pas tous, il va y avoir une vraie division, vont là-dessus être certains fascinés. Hein. François Godichaud, dans des travaux précédents à ce livre, a parlé de bolchevisation de l'appareil libertaire, où dans les bases dirigeantes, mettre plus de verticalisme pour copier un peu ce modèle bolchevique, on pense plus efficace. Donc voilà,
L'autogestion et la gestion par le bas.
En tout cas, c'est vrai que dans le contexte militaire, parfois,
c'est compliqué.
On n'a pas le temps de discuter tous les ans, mais quand même, il y a des travaux intéressants sur qu'on revisitait. Je pense à David Allegre ou collègue Henry Brown, qu'on travaillait sur les milices anarchistes et qu'on montrait que.
Elles ont été efficaces.
Elles ont pu être efficaces et en partie, notamment au début du conflit, parce qu'on croyait au chef.
Oui.
On voulait respecter les ordres. Quand il y a cette question de la loyauté qui est très importante et quand on est dans des conflits parfois à 5 contre 10, il faut avoir confiance et on va avoir envie de suivre le chef qu'on a élu et avec lesquels on peut être d'accord.
Qui fait autorité, ça ne veut pas dire qu'il a autorité pour autant.
Et
c'est ça la nuance.
Et je trouve, on le voit très bien, puisque tu as parlé de quelques œuvres dans les mémoires de Mika Echebere, où ces hommes croient en elle, ils peuvent la suivre. Et ça explique des victoires à Singüenzas ou à d'autres, sur d'autres terrains. Il y a une cause et on y va, et ça c'est aussi un point important qui montre que on n'était pas contre la guerre en soi, mais on était contre la militarisation des esprits et l'esprit martial. Il y a eu, quand on voulait révolution et guerre en même temps, on pouvait faire les deux de front, on voulait réfléchir. Certains ont caricaturé en disant ils veulent pas faire le salut militaire. On l'a vu dans le dernier film, si vous avez vu sur les films sur De Gaulle, on voit des Espagnols qui s'engage dans le 2. Il est quand même intéressant, ce film. Et on voit justement les Espagnols qui sont dans la deuxième DB. Et au début, il y a une scène, on voit, ils refusent de faire le salut militaire, qui sont ces personnes non obéissantes. C'est un peu plus que ça. C'est l'esprit même
de la Nouévé.
De la Nouévé. Et puis de la, ça n'empêche pas le conflit, mais ça empêche peut-être de réfléchir à la manière dont ce conflit est mené.
Tout à fait. Johan ?
Est-ce qu'il y a aussi une propagande a posteriori de caricaturer les anarchistes, notamment dans leur engagement militaire, pour dire, ben voilà, ils ont perdu, que ce soit les bolcheviques ou les fascistes ou les franquistes, cette idée de dire, ben, ils ont perdu parce qu'ils ne sont pas ordonnés, parce qu'ils ne sont pas structurés, et forcément notre modèle autoritaire ou descendant ou vertical est meilleur parce que la guerre doit prouver la capacité à gouverner un pouvoir civil.
Alors, j'ai même pas après coup, j'ai pendant la guerre. C'est un des accros, et puis c'est des choses qui sont amenées, qui sont énormément répétées, où on dit, voilà, ils sont pas efficaces, ils sont anarchistes, ce sont des Don Quichotte, ils demandent des choses, ils gesticulent, ils sont... Il y a question, il y a un mot, le mot efficacité revient tout le temps. Et quand on regarde notamment chez les responsables républicains, moi j'ai travaillé sur la question de fourniture d'armement au camp républicain, donc soit à la République elle-même, soit à différentes factions, organisations politiques qui sont qui défendent la République, et à chaque fois on dit voilà, ils sont pas efficaces toujours, et le problème c'est que même certains historiens parfois ont pris argent comptant des critiques, mais qui étaient des critiques situées par des personnes qui étaient à une place en tant que représentants de la République, et à un moment, la majorité des rapports qu'on cite souvent sont produits au moment de l'automne 1936. Oui. Et je l'ai dit au début, qu'est-ce qui se passe en automne 1936? On pense que la République ça va perdre.
Voilà.
Donc il vaut mieux pas être soi-même le responsable. On va pas dire j'ai mal fait, on va dire c'est l'autre de notre camp.
C'est le bouc émissaire.
Cette querelle des responsabilités, elle a énormément animé le camp républicain dans toutes ses variétés, entre socialistes, dans les différentes, entre communistes et socialistes, entre socialistes et anarchistes, anarchistes et communistes. Bon, je peux comprendre le sens politique de ces divisions, mais ça a été, je pense, moi, une perte de temps, et puis une perte de temps pour la compréhension et l'analyse du conflit et de ce que c'est ce conflit. Ce conflit, c'est une. Et c'est pour ça, le début de l'ouvrage, on me dit, c'est une victoire du franquisme. Une victoire parce qu'ils ont été mieux armés, parce qu'ils avaient des soutiens. Et voilà la cause première de cette défaite.
Aussi parce qu'ils étaient plus violents.
Quelque part, l'intervention de notre ami Hakim et sur Vox, on va revenir là-dessus. À partir du moment où le camp républicain, jusqu'à présent, les héritiers de ce camp-là se disputent encore sur les raisons de l'échec de la République, ça ne favorise pas quelque part encore l'émergence de mouvements comme Vox, l'émergence de slogans comme Franco a apaisé et a fait du bien à l'Espagne, alors que c'est tout à fait le contraire. Et quand on sait qu'en 2000, la société civile découvre que tout le pays est envahi de charniers, je veux dire, Franco, on repassera. Hein.
Oui, alors, moi, je ne jetterai pas la faute sur les différentes organisations qui se déchirent pour expliquer forcément l'ascension de Vox. Hein. Il y a pas mal de critères. D'ailleurs, il y a un contexte européen. Ça arrivait peut-être plus tardivement en Espagne, mais Vox, c'est un sous-produit du Parti populaire. À la base, c'est une dissidence du Parti populaire.
Oui.
Il vient du Parti populaire. C'est là où, en France, on avait des organisations d'extrême droite qui ont été en parallèle de cette UMP ou d'autres partis, les partis avant RPR, etc. Donc, là, c'est un produit sur plusieurs choses. Les produits de Vox, c'est d'abord la crise avec l'ETA.
Et le fait que les GAL n'ont pas été correctement instruites. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas laissé faire le juge Garzón.
Il y a ce contexte-là, puis ensuite le contexte catalan, là où ils sont vraiment montés avec d'autres. Il y a aussi Ciudadanos qui est monté, parti qu'on a comparé à un moment au macronisme, mais en fait, il a disparu, toutes les voix ont été absorbées par Vox. Pourquoi ? Parce qu'on parlait d'un danger. La nation peut exploser. C'est un déclin national. Et là, on a l'éclatement du pays. Et là, on en parlait au début, il y a le fantôme.
Oui.
Voilà, de cette Espagne qui peut éclater. Et de choses qu'on disait un peu sous d'autres termes. Mais évidemment, il n'y a pas une linéarité